Frères et sœurs, comme la semaine dernière, le Seigneur nous invite à bien écouter et entendre celui qui a des oreilles et qui l'entende. Il l'a déjà dit la semaine dernière, il nous le redit cette semaine, c'est-à-dire qu'il nous faut nous laisser enseigner. Nous pouvons entendre, nous pouvons écouter sans entendre, nous pouvons entendre dans nos oreilles sans que pour autant ça porte beaucoup de fruits dans notre vie. Ces paraboles sur le royaume sont d'une importance capitale car elles nous enseignent la manière dont le Seigneur agit dans la vie des hommes et dans notre monde et dans son Église. Les paraboles de ce jour nous enseignent un certain nombre de points, je vais en relever quelques-uns. Le premier point, c'est que, vous l'avez remarqué, le bon grain et l'ivraie se mélangent et il n'est pas possible de les séparer tout de suite. Il nous faut accepter cette coexistence du mal avec le bien. Souvent, on le dit, certains le disent, pourquoi y a-t-il le mal? Pourquoi le mal est-il là? Jésus dit qu'il n'est pas à l'origine du mal. Dans cette parabole, il est clairement dit que c'est le Satan. La semaine dernière, il nous a parlé aussi du démon. D'ailleurs, dans ces deux cas, la semaine dernière comme cette semaine, Jésus explique lui-même les paraboles, donc ça aide les prêtres dans les commentaires. Voilà, et donc il nous faut accepter ce mélange. Et la caractéristique de l'ivraie, c'est que quand elle pousse, on ne peut pas, tant qu'elle n'est pas montée en épi, on ne peut pas savoir si c'est de l'ivraie ou du blé, du bon grain. Et donc, quand elle pousse, on ne peut pas les distinguer, et cela aussi nous montre que finalement, c'est au terme des événements, au terme de l'histoire, au terme de notre vie, que nous pouvons vraiment faire la part, que l'on peut faire la part du bon grain et de l'ivraie. Nous, personnellement, bien sûr, dans notre examen personnel, nous pouvons déjà le faire, mais on ne peut juger de quelque chose qu'avec le recul, qu'avec le temps, en attendant. Donc il faut d'une part accepter la coexistence, d'autre part être patient. Il faut être patient envers nos frères, patient envers notre monde, envers notre Église, envers les membres de notre Église, et ne jamais désespérer, et même ne jamais juger, car nous pourrions nous tromper, comme Jésus le dit, si on essayait d'enlever l'ivraie maintenant, on pourrait arracher aussi le bon grain en même temps, on pourrait se tromper. Donc nous n'avons pas à juger, il n'y a que Dieu qui peut faire le tri et il le fera à la fin des temps. Tout ça, ce sont des enseignements importants qu'il nous faut graver dans notre cœur pour qu'ils conduisent un peu notre manière de vivre, notre manière d'agir, notre manière de regarder le monde, l'Église et nos frères et la vie. Voilà. Le champ, vous l'avez compris, c'est le monde, mais c'est aussi l'Église. Il y a des mélanges, y compris dans l'Église. Nous le savons, nous faisons l'expérience à travers parfois les scandales. Et donc, saint Augustin déjà le disait. Autre chose encore, l'ivraie, en grec, se nomme zizanion. Se dit zizanion, ce qui a donné le mot zizanie chez nous. Semer la zizanie vient de cette parabole. Semer la zizanie, parler à tort et à travers, n'importe comment, c'est semer de l'ivraie et faire l'œuvre du démon, selon ce que Jésus nous dit. Dans les deux petits, les autres, alors je ne vais pas tout commenter, mais les autres petites paraboles, nous voyons l'action puissante de l'Évangile, qui d'une petite graine devient une grande graine, et la contribution indispensable de l'homme aussi. Alors comment devons-nous agir? Nous devons agir comme la deuxième lecture nous y invite, c'est-à-dire vivre sous l'influence de l'Esprit-Saint. Dans le chapitre 8 de l'Épître aux Romains, saint Paul nomme 18 fois l'Esprit-Saint. Il insiste énormément sur cette vie dans l'Esprit. Nous devons y rentrer, nous aussi, dans notre vie. Alors d'un côté, il ne faut pas nous scandaliser du mal, accepter cette coexistence avec le mal, y compris en nous-mêmes parfois. Il nous faut être patient, ne pas vouloir juger trop vite les événements, le monde, l'Église et nos frères. Ne pas semer la zizanie et vivre dans l'esprit. Aujourd'hui, le 23 juillet, je crois, nous sommes le 23 juillet, c'est la fête de Sainte Brigitte de Suède. Je voulais profiter que ça tombe un dimanche pour en dire un mot. Elle est sainte patronne, copatronne de l'Europe, par la volonté du Saint-Pape Jean-Paul II, et elle est trop peu connue, comme beaucoup d'ailleurs des saints patrons de l'Europe. Bon, certains sont connus, d'autres beaucoup moins. Mais je voudrais profiter que c'est la fête de Sainte Brigitte de Suède pour en parler un peu. Aussi parce qu'elle a vécu dans des temps troublés de l'histoire de l'Église. Elle aurait pu baisser les bras, s'inquiéter, râler, juger, condamner. Elle aurait pu semer la zizanie. Elle aurait pu ne pas travailler selon la volonté de l'Esprit-Saint, sous l'influence de l'Esprit-Saint, mais plutôt travailler selon une certaine sagesse humaine qui n'aurait porté absolument aucun fruit. Ce n'est pas ce que Sainte Brigitte a fait. Alors je vais citer deux textes, un texte de Saint Jean-Paul II en 1999, dans un motu proprio, il a déclaré trois nouvelles copatronnes pour l'Europe, et puis ensuite, je citerai aussi le pape Benoît XVI en 2010 dans une catéchèse sur Sainte Brigitte de Suède. Les chrétiens européens peuvent tirer un profit spirituel de la contemplation et de l'invocation de certains saints qui sont de quelque manière particulière représentatifs de leur histoire. C'est un peu pour cela que je fais ce petit commentaire sur Sainte Brigitte de Suède, puisqu'il nous invite à tirer profit spirituel de la contemplation de ces saints, de leur vie. Aussi, après une consultation opportune, complétant ce que j'ai fait le 30 décembre 1980, quand j'ai proclamé copatron de l'Europe aux côtés de Saint Benoît, deux saints du premier millénaire, les frères Cyril et Méthode, qui ont vécu au 9e siècle, pionniers de l'évangélisation de l'Orient. J'ai pensé compléter le cortège des patrons célestes par trois figures également emblématiques de moments cruciaux du deuxième millénaire qui touchent à sa fin. Sainte Brigitte de Suède, Sainte Catherine de Sienne, qui a vécu au 14e siècle, à peu près au même moment de Sainte Brigitte de Suède, Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, qui a vécu au 20e siècle et qui est morte martyre dans les camps de concentration, d'origine juive. Trois grandes saintes, trois femmes qui, à des époques différentes, deux au cœur du Moyen-Âge et une en notre siècle, se sont signalées par l'amour actif de l'Église du Christ et le témoignage rendu à sa croix. La première de ces trois grandes figures, Brigitte, est née en 1303, d'une famille aristocratique suédoise. Elle a deux grandes périodes dans sa vie. La première partie de sa vie fut celle d'une laïque, qui eut le bonheur d'être mariée avec un pieux chrétien dont elle eut 8 enfants. En la désignant comme sainte patronne, comme copatronne de l'Europe, j'entends faire en sorte que la sente proche d'eux, non seulement ceux qui ont reçu la vocation à la vie de consécration spéciale, mais aussi ceux qui sont appelés aux occupations ordinaires de la vie laïque dans le monde et surtout à la haute exigence à la haute et exigeante vocation de former une famille chrétienne. Sans se laisser fourvoyer par les conditions de bien-être de son milieu, elle était de milieu aristocratique, elle vécut avec son époux Ulf une expérience de couple dans laquelle l'amour conjugal alla de pair avec une prière intense, avec l'étude de l'Écriture sainte, avec la mortification et avec la charité. Avec son mari, ils vont adopter la règle des tertiaires franciscains. Ils fondèrent ensemble un petit hôpital où ils soignaient fréquemment les malades. Brigitte avait l'habitude de servir personnellement les pauvres. En même temps, elle fut appréciée pour ses qualités pédagogiques qu'elle eut l'occasion de mettre en œuvre durant la période où on la demanda au service de la cour royale de Stockholm. C'est dans cette expérience que mûrirent les conseils qu'elle donnera en diverses occasions à des princes ou à des souverains pour un bon accomplissement de leurs tâches. Mais les premiers qui en bénéficièrent furent assurément ses enfants. Ce n'est pas par hasard que l'une de ses filles, Catherine, est vénérée comme sainte. Sainte Catherine de Suède. Cette période de vie familiale dura 28 ans. Ce n'était qu'une première étape. Le pèlerinage qu'elle fit avec son mari, Ulf, à Saint-Jacques-de-Compostelle en 1341, mit symboliquement fin à cette étape, préparant Brigitte à une nouvelle vie qu'elle inaugura quelques années plus tard, lorsque, après la mort de son époux, elle entendit la voix du Christ et lui confia une nouvelle mission, la guidant pas à pas par une série de grâces mystiques extraordinaires. Donc, bien retenir, la première période est très importante et c'est un modèle pour toute famille et couple chrétien. La deuxième période, c'est un appel très particulier qu'elle a reçu. Elle quitte la Suède en 1349 et va s'établir à Rome. Elle est veuve, donc désormais, elle ne fera jamais de vœux religieux. Elle s'établit à Rome, siège du successeur de Pierre. Son transfert en Italie constitua une étape décisive pour l'élargissement non seulement géographique et culturel, mais surtout spirituel, de l'esprit et du cœur de Brigitte. Beaucoup de lieux d'Italie la virent en pèlerinage, désireuse de vénérer les reliques des saints. Elle ira même jusqu'en Terre Sainte. Mais en réalité, c'est par le sens profond du mystère du Christ et de l'Église que Brigitte participa à la construction de la communauté ecclésiale à une période notablement critique de son histoire. Donc ce n'était pas une période facile et peut-être plus difficile qu'aujourd'hui. Son union intime au Christ s'accompagna en effet de charismes particuliers, de révélations qui firent d'elle un point de référence pour beaucoup de personnes de l'Église de son époque. On sent en Brigitte la force de la prophétie. Son ton semble parfois un écho avec celui des anciens prophètes de l'Ancien Testament. Elle parle avec sûreté à des princes et même à des papes, révélant les desseins de Dieu sur les événements de l'histoire. Elle n'épargne pas les avertissements sévères, même en matière de réforme morale du peuple chrétien et du clergé lui-même, de tout le monde. Certains aspects de son extraordinaire production mystique suscitèrent en son temps des interrogations, à l'écart desquels s'opéra le discernement de l'Église. Les révélations divines qui l'accompagnèrent pendant tout le reste de sa vie furent dictées par Brigitte à ses secrétaires, qui étaient aussi ses confesseurs, qui les traduisirent du suédois en latin et les rassemblèrent dans une édition de 8 livres. Elle présente un contenu de style très varié. Nous sommes interpellés par des thèmes importants. Par exemple, on retrouve fréquemment la description, avec les détails très réalistes, de la passion du Christ, pour laquelle Brigitte eut toujours une dévotion privilégiée, contemplant dans celle-ci l'infini amour de Dieu pour les hommes. On peut penser aussi aux 15 oraisons de Brigitte, qui sont toujours priées par certains fidèles aujourd'hui. Sur les lèvres du Seigneur qui lui parle, elle place avec audace des paroles émouvantes. Je cite. « Ô mon ami, j'aime si tendrement mes brebis que s'il était possible, j'aimerais mieux mourir autant de fois pour chacune d'elles de la mort que de souffrir pour la rédemption de toutes, que d'en être privé. » La maternité douloureuse de Marie, qui en fut la médiatrice et mère de miséricorde, est aussi un thème qui revient souvent dans les révélations de Brigitte. En recevant ces charismes, Brigitte était consciente d'être destinataire d'un don de grande prédilection destiné à aider de la part du Seigneur. Brigitte savait bien et en était fermement convaincue que chaque charisme est destiné à édifier l'Église. C'est précisément pour ce motif qu'un grand nombre de ses révélations étaient adressées sous forme d'avertissements parfois sévères aux croyants de son temps, y compris les autorités politiques et religieuses, pour qu'elles vivent de façon cohérente leur vie chrétienne. Mais elle faisait toujours cela dans une attitude de respect et en pleine fidélité au magistère de l'Église, en particulier aux successeurs de l'apôtre Pierre. En 1349, donc en s'installant à Rome, elle désirait aussi obtenir du pape l'approbation de la règle d'un ordre religieux qu'elle entendait fonder, consacré au Saint-Sauveur et composé de moines et moniales sous l'autorité d'une abbesse. Cela ne doit pas nous surprendre. Il existait au Moyen-Âge des fondations monastiques avec une branche masculine et une branche féminine, mais pratiquant la même règle monastique qui prévoyait la direction d'une abbesse. De fait, dans la grande tradition chrétienne, une dignité propre est reconnue à la femme. Et toujours, à l'exemple de Marie, reine des apôtres, une place propre dans l'Église, qui, sans coïncider avec le sacerdoce ordonné, est tout aussi importante pour la croissance spirituelle de la communauté. En outre, la collaboration d'hommes et de femmes consacrés, toujours dans le respect de leur vocation spécifique, revêt une grande importance dans le monde d'aujourd'hui. C'est Benoît XVI qui dit ça. À Rome, en compagnie de sa fille Karine, donc Catherine, Brigitte se consacra à une vie intense d'apostolat et de prière. À cette époque-là, les papes se trouvaient en Avignon, loin de Rome. Brigitte se tourna vers eux avec une grande tristesse, afin qu'ils reviennent au siège de Rome, dans la ville éternelle. Et donc c'est Sainte Catherine de Sienne, qui vivra à peu près à la même période, qui verra, qui poussera aussi au retour du pape à Rome et qui va l'obtenir. Elle mourut en 1373, avant que le pape Grégoire XI ne rentre définitivement à Rome. En 1391, le pape Boniface IX la canonisa solennellement, donc c'est-à-dire assez rapidement après sa mort. Originaire de Scandinavie, Sainte Brigitte témoigne de la manière dont le christianisme a profondément imprégné la vie de tous les peuples de ce continent, de l'Europe. En la déclarant copatronne de l'Europe, le pape Saint Jean-Paul II a souhaité que Sainte Brigitte, qui vécut au XIVe siècle, lorsque la chrétienté occidentale n'était pas encore frappée par la division, puisse intercéder efficacement auprès de Dieu pour obtenir la grâce tant attendue de la pleine unité de tous les chrétiens. Amen. J'espère que vous avez réussi à me suivre. Voilà, c'était un peu long, je suis désolé. Amen.